Ce mardi, nous entendons la suite de la vie de Moïse. L'origine en fait de la vie de Moïse. Cette histoire qui est très jolie, qui est très astucieuse, peut nous parler et nous permettre de réfléchir un peu à notre existence. Et finalement, ce qui a permis qu'on vive, avec les aléas, Moïse aurait dû être noyé. En fait, il a bien été jeté dans le fleuve, mais dans une corbeille. Donc en fait, Moïse était livré à la mort par sa mère, par le décret de Pharaon. Et il est sur une corbeille de joncs sur l'eau. Alors, ça figure aussi chacun de nous, avec l'eau qui figure à la fois la mort et le baptême. Mais là, c'est l'eau de la mort. Moïse qui traverse la mer, déjà. Ça va être une mode chez lui. Il traversera la mer Rouge. Là, il commence par le Nil. Sur une embarcation de fortune, il faudrait lire le livre de la Sagesse qui évoque le petit bateau sur l'eau. Dérisoire. Et puis... Puis une femme qui le recueille. Et une femme qui prend pitié de lui parce que c'est un petit bébé qui pleure et elle est touchée. C'est très mystérieux. Alors comme elle est la fille de Pharaon, elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle décide d'adopter ce petit garçon et de le faire nourrir. Et comme sa sœur est dans le coin, sa sœur la porte à sa mère, qui est donc sa propre mère aussi. Et donc, nous avons cette belle histoire, et c'est encore une fois, ça peut nous permettre, nous, de réfléchir un peu à notre vie, à notre histoire. On se plaint beaucoup, et en fait, on est toujours en vie. Et la vie est plus forte. Est-ce qu'au fond, ce sont ceux qui voulaient notre mort qui... C'est curieux de voir que celui qui voulait la mort des Hébreux, à une fille qui va laisser un Hébreu vivant. Vous voyez, il y a un mystère de mort et de vie dans ce texte qui est assez bouleversant. Car en fait, le premier acte de la fille de Pharaon, c'est de sauver Moïse. C'est tout ce qu'on saura de cette fille. Et en fait, le premier acte de Moïse, ça va être de tuer un Égyptien. Vous voyez, c'est étonnant quand même. Il y a beaucoup d'histoires de mort et de vie, là, au fond. Et Moïse semble complètement indifférent à cette vie pharaonique, à sa mère adoptive. Au fond, il aurait pu aller la voir et lui dire « Dis donc, c'est dégueulasse ce qui se passe, tu pourrais pas intercéder ?» On n'a pas du tout ça, on n'a pas du tout cette histoire-là. Il reste très, très proche de ses frères, il est donc courant au cours, il sait qu'il est hébreu. Sa mère a dû lui dire, sa vraie mère a dû lui dire. Je reste très très mystérieux. En fait, il va être formé, à l'école de la République, mais à l'école pharaonique, et finalement, peut-être grâce à ça, parce qu'il connaîtra les langues, il apprendra des choses, il aura des facilités pour étudier. Même si plus tard il dira à Dieu qu'il n'est pas doué pour parler. Mais en tout cas, il est doué pour comprendre, peut-être pas pour s'exprimer, mais pour vivre des choses étonnantes et avoir une relation à Dieu très forte. Nous le verrons. Et donc au fond, Moïse est sauvé deux fois. D'abord, il est sauvé des eaux par la fille de Pharaon, et il est sauvé de Pharaon par sa fuite. Il est deux fois sauvé de Pharaon, donc. d'une part par la fille de Pharaon et d'autre part par la fuite que Dieu permet, sachant qu'il a tué un homme. On dira de Moïse que c'est le plus humble que la terre ait jamais porté. Mais on ne dit jamais de Moïse qu'il a commencé sa vie par tuer un Égyptien. C'est intéressant parce que ça montre aussi... Qu'est-ce que ça montre d'ailleurs? Qu'est-ce que ça montre? Évidemment, l'Égyptien figure le mal. Hein, ici, ce n'est pas simplement un Égyptien, un type qui vit en Égypte. Voilà. À l'époque, ça figure quelque chose, l'Égypte. C'est l'horreur, l'abomination absolue. C'est les idoles, c'est les païens, c'est... la décadence, tout ce qu'on veut. Et ceci nous amène à l'évangile, où Jésus nous fait des reproches. Alors, ce serait pas mal d'entendre ces reproches et de vivre en nous disant, tiens, aujourd'hui, Jésus me fait des reproches. Pourquoi ? Parce que je ne me suis pas converti, malgré tout ce que je vois depuis, je ne vais pas dire 2000 ans, parce qu'on n'a pas tous cet âge-là, mais tout ce que l'on sait qui s'est passé depuis 2000 ans, toutes les interventions du Seigneur, le nombre de fois où peut-être on a dit au Seigneur, tu sais, si tu m'aides, je vais changer ma vie. Pff, foutaise, t'as rien changé. Le nombre de fois où on n'a pas tenu notre parole, tout ce qu'on a vu de merveilleux, les enfants qu'on a pu avoir, la personne avec qui on partage sa vie, les moments merveilleux, les moments douloureux où on a été soutenu, les moments de croissance, la première fois qu'on a été appelé maman, papa par ses enfants, que sais-je, enfin vous voyez, toutes ces choses merveilleuses, et puis cette parole de Dieu que nous entendons tous les dimanches, ces miracles auxquels nous assistons tous les dimanches à la messe. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que nous avons conscience que tous les dimanches il y a un miracle? Moi tous les jours je fais un miracle. Je pense que si j'en avais un peu plus conscience, je changerais peut-être un peu plus, quoi. Enfin, je sais pas. Même si ça dépasse, parce que vous voulez, vous dites des paroles, vous voyez rien qui change, et pourtant tout a changé. Bon. Eh ben, on voit ça et on se convertit pas, quoi. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Tous les dimanches, tous les jours, tu as vu du pain devenir mon corps, et tu t'es pas converti. S'ils avaient vu ça à Sodome, ils auraient complètement changé de vie. Waouh ! Bon, alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, dans le sens où les miracles dont Jésus parle, ce sont des miracles visibles, sensibles, palpables. Miracle eucharistique, c'est un miracle pas visible, palpable. On sent toujours du pain, on a toujours le goût du pain, on a toujours l'impression du pain, mais c'est le corps du Christ. Donc, il y a un miracle de l'ordre de la foi. Là, les miracles dont Jésus parle, ce sont... je ne vais pas dire les vrais miracles, parce que ce serait hérétique, c'est les miracles indubitables. Pour voir un païen qui rentre dans une église au moment de la consécration, il dit, waouh, il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il met en l'air là? C'est quoi le bout de carton en l'air? Bon. Un païen qui verrait un homme paralysé se lever de sa chaise, il l'a vu, il a vu qu'il est paralysé, il a vu... Donc, il dit, waouh, là il s'est passé un truc. Bon, nous on a vu combien de fois ces miracles-là? Alors peut-être on ne les a pas vus comme ça, mais... Donc au fond, vous voyez, les gens n'ont pas été touchés par les miracles de Jésus, et Jésus fait des reproches. Alors vous comprenez que si les miracles de Jésus n'ont pas porté auprès de tous, combien plus notre pauvre parole, dont on se désespère qu'elle ne déchaîne pas les foules et qu'elle ne les mette pas en liesse, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, notre parole? Si les miracles du Sauveur du monde n'ont pas réussi à tourner des gens, la parole d'un pauvre coco, là, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Donc, est-ce que nous nous convertissons? Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que les gens ne soient pas touchés par la parole des disciples, puisque les miracles du Maître ne les ont pas touchés? Voilà, c'est une question pour nous. Est-ce que nous nous convertissons? Est-ce que nous avons conscience de tout ce que Dieu fait pour nous, a fait pour nous? individuellement, de façon commune, pour l'Église, ce que nous avons rendu grâce suffisamment pour l'élection du pape, ça s'est passé d'une manière tellement étonnante. Est-ce que nous rendons grâce pour la foi catholique que nous avons reçue? On pourrait très bien ne pas l'avoir. On pourrait être né en Iran, être musulman, ou je sais pas quoi, ou idolâtre, ou... Voilà. On pourrait être en Chine, être communiste. On n'a jamais connu autre chose. Et on peut réfléchir à tout ça, quoi. Et nous dire, mais Seigneur, donne-moi la grâce de la conversion.